monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en introduction, j'aimerais lire un psaume, le psaume 90, psaume de Moïse, une prière de Moïse qui était un homme de Dieu et qui a vu des moments bien difficiles durant son long parcours sur terre et qui, vers la fin de sa vie, a écrit ce psaume, le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Dans ce psaume, nous entendons que Moïse a bien connu des moments très difficiles. Et il est venu à deux constats, constat par rapport à la vie humaine qui est brève et par rapport à la colère de Dieu qui est réelle contre notre péché. Et ce sont encore des constats que nous pouvons dresser aujourd'hui. Pourtant, nous connaissons le moyen que Dieu a pourvu pour nous faire grâce, qui est l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils, à la croix. Et c'est à travers lui que nous pouvons être rassasiés de la bonté de Dieu, sûrs de la bonté de Dieu, et donc être dans la paix. Et dans la confiance, que la grâce de l'Éternel soit sur vous aujourd'hui. Chantons ensemble.
vous tous qui ce matin vous êtes arrêtés pour consacrer ce temps à notre Seigneur, recevez nos salutations fraternelles. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans l'étude des textes de la lettre aux Romains. Nous sommes parvenus à la deuxième partie du chapitre 15. Nous lirons ce matin les versets 14 à 33. Notre étude a pour titre Mission et solidarité. Elle se décline en deux sections comme le titre proposé. Je vous invite à lire avec moi le texte de Romains, chapitre 15, versets 14 à 33. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Je peux donc vous montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions et que depuis bien des années j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'Évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie et, si c'est la volonté de Dieu, y trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Voulons prier avant de poursuivre notre méditation de ce texte. Dieu notre Père, nous te bénissons pour tes bienfaits à notre égard. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as pris soin de nous tout au long de ces jours passés. Tu nous as protégés et ce matin tu veux nous parler. Dispose-nous à recevoir ce que tu as pour nous. Seigneur, que nous nous sentions personnellement interpellés et que nous mettions à ta disposition pour que ton plan de salut pour les hommes se réalise à travers nous. Nous prions en Jésus. Amen. Nous commençons par examiner la notion de mission, la mission qui était celle de l'apôtre Paul. Lorsque Paul parle de l'Église de Rome en Romains 1, verset 8. Il présente une Église debout, une Église en pleine maturité, une Église dont la foi est reconnue dans le monde. Cependant, il s'autorise à lui écrire pour rappeler certains points de doctrine fondamentaux. L'Église de Rome est riche de la diversité sociale, culturelle, spirituelle de ses membres. On y trouve des chrétiens d'origine juive, païenne. Certains ont acquis de la maturité spirituelle, d'autres en sont à l'initiation à la foi chrétienne. Il est donc possible que des problèmes surgissent. Paul en parle depuis le chapitre 14 jusqu'au verset 13 du chapitre 15. Pour l'essentiel, les chrétiens de Rome sont pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de s'avertir les uns les autres. On pourrait alors penser que tout va bien, ils sont arrivés. Ce serait oublier le combat constant que les chrétiens doivent mener contre ces tendances naturelles. Paul est pleinement conscient des enjeux et dans ses habits d'officiant pour Christ, il adresse ses recommandations à l'Église de Rome comme un encouragement à persévérer dans la bonne doctrine. C'est comme prêtre que Paul s'adresse aux chrétiens de Rome. Dans l'Ancienne Alliance, le prêtre était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui apportait le sacrifice qui était offert à Dieu. Par ce sacrifice, Dieu se rendait favorable aux hommes, leur accordait son pardon et les bénédictions nécessaires. Paul, parmi les païens, présente la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché. Par son action, conséquente à l'annonce de la bonne nouvelle, le Saint-Esprit donne une identité nouvelle à celui qui croit et en fait une offrande agréable à Dieu. C'est une grande responsabilité de porter cette parole de vie aux hommes que Dieu veut sauver. Et c'est un honneur pour l'apôtre Paul de s'acquitter du service sacré de la prédication. Il le fait sans complaisance, avec la pleine conscience de l'enjeu qu'est le salut des âmes. Paul peut être fier de la mission qu'il accomplit pour Christ, non pas en se bombant la poitrine et en se plaçant au centre pour que tous admirent ses œuvres, ses talents de prédicateur ou d'évangéliste. En fait, Paul est un instrument et il y rend grâce à Dieu lorsqu'il parle de fierté. Tout ce que Paul réalise, c'est l'œuvre de Dieu. Il le dit lui-même, c'est la puissance de Dieu qui a été à l'œuvre dans tout ce qui a été accompli. 2 Corinthiens 3, verset 5 déclare, « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Fin de citation. Nous sommes rendus capables par Dieu parce qu'il nous équipe, il nous confie également une mission. Celle-ci implique notre engagement et sollicite tout ce que nous avons comme ressources humaines. Nous devons rendre compte car notre responsabilité est engagée. Non, Paul n'est pas un pantin, il est dépendant de Dieu. Nous le voyons qui observe, qui écoute et qui, sous l'inspiration de l'Esprit, peut écrire utilement à l'Église de Rome. Nous voyons Paul qui pense des projets et qui est capable de reconnaître Dieu à l'œuvre dans sa vie. C'est un homme doué de toutes sortes de raisons, qui fait usage de son intelligence et prend ses responsabilités. Il fait preuve de stratégie dans la propagation de l'Évangile. Il est parti de Jérusalem pour couvrir une zone géographique suffisamment étendue. Il se déplace d'une ville à l'autre après s'être assuré que le travail d'implantation soit correctement réalisé. D'où lui viennent cette énergie et cette volonté de faire connaître Christ? Paul semble habité par la soif de voir des âmes sauvées pour le Seigneur. Est-ce possible de rester impassible lorsqu'on a compris qu'il s'agit de sauver des vies? Face à la mort physique, le monde païen exprime son indignation. Des moyens financiers colossaux sont disponibles pour éviter des morts dans le contexte qui est le nôtre. Si la vie de nos semblables ne dépendait que de l'argent, il y a longtemps que nos hôpitaux et institutions diverses disposeraient du matériel nécessaire pour sauver des vies. Hélas, la mort qui s'abat actuellement dans le monde n'a pas eu peur des moyens financiers présents dans le monde. Elle frappe sans distinction les riches comme les pauvres, jeunes comme personnes âgées, blancs comme noirs, personnes lettrées comme illettrées. Ce qui est remarquable, c'est la réaction forte des autorités publiques, la mobilisation mondiale face à ce fléau. L'apôtre Paul est de ceux qui ont compris la gravité de la situation. Si nous mourons, hélas, de maladie, c'est une situation triste. C'est d'autant plus malheureux de connaître, en plus de la mort physique, la mort éternelle. C'est la double peine. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, lorsque nous avons compris que la vie vient de Dieu et qu'il nous la prête ici-bas pour nous préparer pour l'éternité, notre attitude change. L'urgence de connaître Dieu devient une réalité et notre amour pour le prochain est vif. Avec Paul, l'urgence de saisir le message de l'Évangile se fait pressante. Nous ne savons pas quand la mort nous tombe dessus. Nous pouvons néanmoins, à la suite de Paul, annoncer l'Évangile. Au verset 20, il affirme: Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait été annoncé. Paul n'est pas prétentieux ni orgueilleux. Il a évité les endroits où l'Évangile avait déjà été annoncé par stratégie et souci d'efficacité. Le territoire est grand. Il est possible d'aller ailleurs et se rendre utile. Paul voudrait aussi surtout répondre à son appel. Il est un planteur d'église et veut rester dans cet appel que lui a adressé le Christ. Notre attention est quand même attirée par le fait que Paul dit qu'il ne voulait pas travailler sur les fondations posées par un autre. Cela suppose donc que Paul n'était pas seul à travailler. D'autres aussi. Des anonymes ont participé à cette œuvre d'annonce de l'Évangile. Il n'est donc pas nécessaire de porter le titre d'apôtre pour annoncer l'Évangile. Certains chrétiens pensent que seuls les pasteurs et responsables d'église ont cela comme mission. Et elle te concerne aussi. Les chrétiens de Rome étaient capables de s'avertir les uns les autres. Quel est ton appel pour le monde? Il ne s'agit pas d'aller dans les contrées lointaines. Le Seigneur voudrait te voir actif là où tu es, avec les moyens qui sont les tiens. Certains chrétiens ont tendance à sous-estimer la qualité de la parole qu'ils portent. C'est l'œuvre de Dieu en vous qui se réalise. Si vous lui faites une place dans votre cœur, si vous avez compris cette urgence pour le salut des âmes, Paul, à la suite de Christ désigné comme le serviteur de Yahvé, a toujours eu à cœur de mener à bien sa mission. Il définit son appel comme missionnaire, planteur d'église, prêtre dans l'église de Christ. En 1 Pierre 2, verset 5, nous lisons: Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. L'appel de Paul était particulier, mais la Bible nous implique. Nous avons quelque chose à faire, d'abord pour nous-mêmes. Il nous faut devenir une maison spirituelle, des pierres vivantes. Si le qualificatif vivante est accolé à pierre, cela suppose qu'il est possible de trouver dans l'Église des pierres mortes. La parole de Dieu nous convie à être un groupe de prêtres saints. C'est dire le rôle que doivent tenir les chrétiens dans l'Église de Christ. C'est aux prêtres de porter cette bonne nouvelle du salut en Christ. Christ mort et ressuscité nous offre une perspective pour l'éternité. C'est à nous de prendre conscience de la dimension spirituelle liée à notre appel pour mettre sur pied des stratégies d'évangélisation pour le salut de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous devons, par une attitude intentionnelle, prendre du temps dans la prière, avoir une réelle envie et de la détermination pour réaliser la volonté du Seigneur. Mettre sur pied un projet d'action, peut-être partager cela avec un ami ou une personne de confiance que vous savez intéressée, acquise à la cause des autres, puis agir selon que l'Esprit Saint vous conduise. Cette mission n'est pas un travail en solitaire. Il peut se faire en collaboration. La solidarité de tous est la bienvenue. Le projet de Paul pour l'Église de Jérusalem n'est probablement pas simplement un geste d'amitié. Les églises d'Achaïe et de Macédoine expriment leur communion avec l'Église mère de Jérusalem. Cette dernière connaît une pauvreté endémique. La famine y est parfois présente. La communion spirituelle est une évidence. En effet, dans ces églises coule la même sève, celle du Saint-Esprit qui leur donne vie. Comment ne pas se sentir concerné par ce qui se passe à Jérusalem? Certains diraient loin des yeux, loin du cœur. L'Église est le corps dont Christ est la tête. Si un membre est malade, c'est tout le corps qui souffre. La mobilisation de l'Église pagano-chrétienne est une mise en pratique de cet enseignement. Leur solidarité est volontaire. Elle est d'un élan naturel. Elle est désintéressée. Paul écrit au sujet des églises de Macédoine et d'Achaïe, je cite, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 3 à 5. Toutefois, au verset 27 de notre étude, Paul met en évidence cinq points qui expliquent la mobilisation des églises de Macédoine et d'Achaïe. Premièrement, une attitude de reconnaissance par rapport à l'église mère. Le salut vient des Juifs. Cette affirmation peut sembler choquante, pourtant elle exprime une réalité incontestable. Le pape Pie XI, en 1937, face à un antisémitisme croissant qui touchait même les chrétiens, déclare, je cite, « Nous sommes spirituellement des sémites ». Fin de citation. Deuxièmement, la notion de devoir des uns par rapport aux autres. Dans la foi en Christ, nous sommes interdépendants. Le troisième point touche à un échange juste des biens matériels contre les biens spirituels. Il ne s'agit pas d'un troc, même si cela y ressemble. Les églises païennes ont part aux avantages spirituels des Juifs. Une relation n'est relation que si on peut percevoir ce mouvement d'aller-retour. Quatrièmement, la générosité en toute liberté et avec joie. C'est une démarche volontaire des églises de Macédoine et d'Achaïe qui ont fait le choix d'organiser cette collecte. Ils ont donné au-delà des espérances de Paul. Et le dernier point, traduit un puissant témoignage d'amitié entre églises. Ces églises qui pourtant sont différentes au regard de leur arrière-plan. Les églises d'origine païenne n'ont pas pris pour prétexte leur origine pour se détourner des besoins de Jérusalem. Ils n'ont pas mis en avant l'éloignement, leur position géographique. Ce qui compte prioritairement, c'est la foi qui leur est commune. Ce projet tient vraiment Paul à cœur. Il aurait pu laisser un de ses collaborateurs porter ses dons à l'église de Jérusalem, mais il a préféré le faire lui-même. Nous verrons plus tard pourquoi. Pour l'instant, c'est de manière solennelle et officielle que Paul voudrait que ce don soit adressé à l'église de Jérusalem. Il faut éviter tout soupçon ou contestation. Il faut de la transparence dans le processus. Sans clore son propos, Paul rappelle sa volonté et son désir de se rendre à Rome. Il veut inscrire cette visite dans le plan de Dieu pour l'Église. Ce serait alors un temps de ressourcement certain pour l'Église comme pour lui-même. Paul sait que tout projet qui n'a pas l'approbation du Seigneur est voué à l'échec. Ici, bien que ses intentions soient louables, malgré la mobilisation volontaire et massive des églises de Macédoine, d'Achaïe et même de Galatie, selon 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1, la demande de prière est pressante et précise. Paul supplie les chrétiens de Rome. Cette demande n'est pas semblable à celle qu'il a l'habitude d'adresser aux églises, notamment celles de Corinthe, d'Éphèse, de Colosse, etc. Ces chrétiens savent pourtant ce que prier signifie, mais Paul semble particulièrement préoccupé par ce voyage à Jérusalem. Cet appel à la prière fait intervenir la divinité dans ses trois composantes. Les Romains sont conviés à prier le Père par le Christ avec le soutien de l'Esprit. C'est un combat qu'il s'agit de mener. Il est question de prendre conscience de l'importance du moment. Il y a une certaine intensité, de la détermination et surtout une action dans la durée qu'il s'agit ici d'entreprendre. Les chrétiens de Rome ont certainement perçu l'urgence de la demande de Paul. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, le verset 23, la prédication de Paul sur la messianité de Christ ne plaît pas aux Juifs de Damas. Ils se concertent pour mettre fin à sa vie. De même, au verset 30, à Jérusalem, les hellénistes n'ont qu'un projet, c'est de le supprimer. Les relations de Paul avec les Juifs ne sont pas des meilleures. Mais ce n'est pas de la persécution qu'il a peur. La préoccupation de Paul est toujours la même, que l'Évangile soit annoncé. Il est donc compréhensible que Paul invite ses frères et sœurs de Rome à entrer dans un combat contre les forces contraires à l'avancée de l'Évangile. La deuxième requête de Paul pour les chrétiens de Rome est que ses dons soient acceptés. Cela tombe sous le sens, me direz-vous. Eh bien non. Au-delà de la prédication de Paul sur Jésus comme Messie qui dérange les Juifs, au sein de l'Église, il y a une difficulté même pour les Juifs convertis à accepter les païens comme faisant partie de l'Église. En Actes 21, les versets 15 à 25, les responsables réunis chez Jacques rappellent à Paul qu'il vaut mieux se conformer aux traditions juives. La distance qu'il prône avec les règles de la foi juive est difficile à admettre. Certains responsables juifs demeurent attachés à leur héritage. D'autres souhaitent timidement l'entrée des non-juifs dans l'Église sans autre contrainte. Il n'y a pas unanimité. Alors ces dons qui arrivent ne sont-ils pas un moyen d'acheter la conscience de ceux qui sont opposés à l'entrée des non-juifs sans condition dans l'Église? Ou pire, n'est-ce pas de la provocation? Autrement dit, les dons que Paul apporte sont une façon détournée de faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec son enseignement apporté dans les églises païennes. Ce serait une forme de corruption de conscience si ces dons sont acceptés. Quels arguments pourraient encore mettre sur la table les opposants à Paul une fois qu'ils auront reçu l'argent qui vient de son travail? Cette partie de l'Église qui entend défendre leur respect de la tradition juive devrait alors accepter des thèses pernicieuses qui prospèrent dans les milieux païens défendus par Paul. Vous comprenez à présent pourquoi Paul ne pouvait a confié cette mission à un collaborateur. En effet, cela ne va pas de soi que les dons apportés par Paul soient acceptés. Les chrétiens de Rome prient pour que les thèses des conservateurs de la tradition ne prospèrent pas. Nous l'avons vu, les églises ont donné dans un esprit fraternel. Leur motivation était de manifester leur attachement à l'église mère, ainsi que leur reconnaissance. La vie dans l'église primitive ne s'est pas déroulée comme on le pense souvent en toute tranquillité. L'épître aux Galates nous fait part de ces tensions qui ont existé entre juifs convertis et chrétiens d'origine païenne. Les prières de Paul et des chrétiens de Rome seront exaucées. Paul aspire à trouver du repos lors de son voyage parmi ses frères de Rome. Il n'entrevoit pas un séjour long. Il est déjà sur un projet pour l'Espagne. Il souhaite quand même que ce séjour à Rome soit profitable pour tous. En conclusion, nous avons à travers ce texte vécu une tranche de vie d'un homme engagé pour le Seigneur. Paul n'a pas fondé l'église de Rome, mais en a entendu parler positivement. Cependant, dans sa position d'officiant pour Christ, Paul s'est senti le devoir de leur rappeler les éléments de doctrine essentiels pour consolider leur foi. Cette première partie nous a donné l'occasion de nous questionner sur le regard que nous portons parfois dans notre vécu d'église. Est-ce un regard complaisant ou un regard dans la vérité de l'enseignement du Seigneur? Paul ne cherche à plaire à personne. Ce qui compte, c'est l'observation de la parole de Dieu et une vie conforme à l'enseignement véritable. Ce regard non complaisant doit commencer par porter sur notre propre vie. Face à la parole de Dieu, à l'action du Saint-Esprit, aux enseignements apportés par ceux que le Seigneur choisit, il est possible, quelle que soit notre expérience de la vie de foi, d'apprendre du Seigneur. Paul parle à des chrétiens matures. Le deuxième volet de cette position de prêtre consiste à porter l'Évangile comme priorité majeure. Paul a remis son voyage à plus tard parce que l'essentiel était de propager l'Évangile. Nous sommes si souvent préoccupés par nous-mêmes que l'annonce de l'Évangile est comme optionnelle. Pour Paul, c'était sa raison de vivre. Il était dévoré par ce désir de voir des âmes recevoir le Seigneur et donc la vie éternelle. Que penses-tu d'avoir cet objectif comme priorité dans ta vie? Voudrais-tu emprunter ce chemin selon l'appel que le Seigneur t'adresse? Paul nous convie à la solidarité qui se décline sous deux aspects. Premièrement, la solidarité matérielle. 1 Jean chapitre 3 verset 17 déclare « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ?» Fin de citation. Nous ne pouvons pas rester impassibles face à la détresse d'un frère ou d'une sœur. L'amour de Dieu est pratique et concret. C'est ce que les chrétiens de Macédoine, Galatie et d'Achaïe nous donnent comme enseignement. Vers qui peut se tourner ton aide? As-tu un voisin qui n'est pas capable de faire ses courses, qui vit seul et qui aurait besoin d'une aide que tu peux apporter? Je sais, il faut prendre des mesures de protection nécessaires. Ton aide pourrait aussi être un coup de fil ou tout ce que le Seigneur peut inspirer eu égard au contexte actuel. Ton soutien peut aussi se porter pour les missionnaires. Notre Église soutient Martha et Thomas. Il est aussi possible d'exprimer ta solidarité matérielle de plusieurs manières. Deuxièmement, la solidarité spirituelle questionne notre approche de la prière. Quelle place réservons-nous à la prière dans nos agendas? Il y a quelques semaines, il n'y avait plus un seul espace prévu pour la prière. Ce temps de confinement nous a-t-il permis de revoir nos priorités? Ou peut-être sommes-nous encore plus débordés qu'avant? La prière est un combat à mener, surtout pour le salut des âmes. Dieu veut répondre à ce besoin-là en priorité. Et sommes-nous disposés à lui permettre de réaliser ses plans dans nos vies? Amen.